Chapitre 6. Tandis que Victor passait des journées entières auprès de Marichette, et même des heures en tête-à-tête avec elle, Paulin n'avait plus que de courtes occasions de la voir, et encore était-ce le plus souvent sans qu'ils pussent échanger une parole. À la vérité, chaque matin ils se trouvaient réunis, car c'était le moment où Belloc donnait ses instructions en distribuant le travail à chacun, après s'être fait rendre compte de la journée de la veille. Généralement, c'était par Paulin qu'il commençait, car il fallait que celui-ci partît aussitôt les ordres reçus pour aller surveiller les ouvriers qui travaillaient dans les maisons en construction, disséminés çà et là le long de la côte, depuis Criquefleur jusqu'à Berneval-le-Malgardé et même jusqu'à Viteteau-Normandeuse. Le plus souvent, les explications étaient longues. Il y avait des plans, des devises à consulter, des notes à prendre, et pendant ce temps, Paulin ne pouvait pas se permettre la plus petite distraction. Ce n'était pas avec un homme comme Belloc que les distractions ou les légèretés étaient admises. Il les eut vite relevées, et si raides qu'on en tremblait d'avance. C'était seulement quand Belloc était passé dans le bureau de Victor que Paulin avait quelques instants de liberté. Pour mettre en ordre les plans et les papiers qu'il devait emporter dans sa tournée, il restait à sa table. Mais aussitôt que le terrible patron s'était éloigné, il laissait là plans et devis, et relevant la tête, il regardait Marichette. Celle-ci, qui était à sa place, penchée sur son papier, sentait venir ce regard, et alors elle relevait la tête, et durant quelques secondes, il restait ainsi. Puis Marichette lui adressait son coup de tête habituel. Epsit ! À cette interrogation de chaque matin, il répondait par un signe, toujours le même. Il m'attend sur la place, je vais l'emmener. Ou bien par un autre qui voulait dire. Je l'ai laissé à la maison, mais soyez tranquille, il va bien. Et il se souriait. Mais Belloc les rappelait à la réalité. Eh bien, vous ne partez pas ? Criait-il de dedans le bureau de Victor et sans se déranger. Oui, monsieur, tout de suite. En effet, il fallait partir, sous peine de voir le patron arriver. Alors il ramassait ses papiers et s'en allait courir les chantiers, suivi de Psit, qu'il avait guetté sans oser franchir la porte, à cette heure sévèrement interdite. Quelquefois, il revenait après le déjeuner, sous prétexte de prendre des plans qui lui étaient nécessaires, mais c'était là de rares bonnes fortunes. Le plus souvent, il ne rentrait qu'à la nuit tombante, crotté, mouillé, harassé, après avoir pataugé toute la journée dans les chemins glaiseux de la falaise et dans les terres fraîchement remuées des jardins qu'il jalonnait. Avant qu'il poussât la porte, Marichette savait qu'il arrivait. Sur le trottoir, il tapait des pieds pour se débarrasser de la boue et du mortier qui ourdaient ses bottes, il secouait son pardessus blanc de plâtre et de chaux. À voix basse, il adressait des recommandations à Psit. Enfin, il ouvrait la porte et, dans la pleine lumière de la lampe qui éclairait Marichette, il retrouvait le sourire qui avait accompagné son départ. Quand Belloc était là, il n'y avait rien à dire, Paulin se mettait au travail devant sa table. Mais assez souvent le patron, qui lui aussi surveillait ses ouvriers avec l'œil du maître, ne rentrait qu'après son commis, retenu et attardé par les mille et une affaires qu'il menait de front pour sa fortune, son ambition ou son plaisir, et alors on pouvait causer. « Bonsoir, mademoiselle Marichette. »« Bonsoir, monsieur Paulin. » Il se débarrassait de son pardessus et vivement il venait auprès de Marichette. « Quel temps » disait-il. Au moment du grain, j'ai pensé à vous. Vraiment ? La pluie tombait si fort et le vent soufflait si furieux. J'ai cru qu'il me jetterait à bas de la falaise. À un certain moment, j'ai dû me cramponner à des touffes d'herbe. Psit s'était couché. Mais il était rare qu'ils pussent s'entretenir en tête à tête. Presque toujours Victor, qui à cette heure n'avait plus de clients à recevoir, venait se mettre en tiers entre eux. Alors ils ne pouvaient plus rien dire, car bien que les paroles qu'ils échangeaient fussent d'une innocence parfaite, ils les paralysaient, il n'y avait plus d'intimité. « Comment vous vous plaignez de la tempête ? » disait Victor. « Il n'y a donc plus de jeunes gens ? Ah, que j'aurais voulu être à votre place ! Calme, les bras croisés, la tête haute, j'aurais défié le vent !» Paulin se contentait de hausser les épaules, mais Marichette répliquait « Pourquoi ne défiez-vous pas le vent le soir ?»« Mais je le défie, mademoiselle, et voilà pourquoi j'en parle. Je sais tout ce qu'il y a de poésie dans son âpreté. Cela ne vous tente donc pas quelquefois ?»« Oh, moi, je ne défie rien ni personne !» Mais cela ne calmait point l'enthousiasme de Victor, qui continuait à se promener à travers le bureau, les bras croisés sur la poitrine, la tête haute, le regard inspiré, défiant tout. Oh, l'âpreté de la mer ! Il avait commencé un poème sur la poésie de la mer, et ce lui était une occasion d'en réciter les premiers vers. Le flot, suivant le flot, se brisait sur la grève, la vague qui toujours sur la vague s'élève, se renversait, creusant de lumineux sillons. Il aurait aimé en réciter davantage, mais s'il se bornait à ces trois vers, c'est qu'il n'avait jamais fait le quatrième, étant dans sa verve poétique presque aussi bref que dans ses discours amoureux. Ce qui arrivait après que la vague s'était renversée, personne n'a jamais pu le savoir, ni lui non plus d'ailleurs. Malgré l'âpreté du vent de la mer, qui souffle si souvent sur ces côtes de la Manche, exposées au nord ou à l'ouest, l'hiver est cependant moins dur sur le rivage que dans l'intérieur des terres. Quand, sous le climat de Paris, tout est tué par les fortes gelées qui fendent les gros arbres et brûlent les arbustes à feuillage persistant, en Normandie, pas un arbre des forêts ou des champs n'est atteint, et le long des haies, les houx et les fragons gardent leurs fruits rouges au milieu de leurs feuilles vertes. Cet hiver-là, bien que ce vent du nord-ouest fût fréquemment soufflé, la végétation ne s'était pas partout arrêtée et dans les jardins qui se trouvaient jusqu'à un certain point abrités par un pli de terrain, un rideau d'arbres, une haie ou un mur, il y avait encore sous les feuilles des violettes qui fleurissaient de temps en temps. Justement, le petit jardinet de Madame Moreau, entouré de haies vives, était dans ces conditions d'abri, et le long d'une allée exposée au midi, il y avait une bordure de violettes des quatre saisons qui donnait encore des fleurs. Un matin, Paulin, qui était cependant le moins coquet des hommes, arriva au bureau avec trois ou quatre fleurs à la boutonnière de son paletot. Belloc était parti de bonne heure en voyage et le bureau ne se trouvait pas soumis à la rigoureuse discipline qui faisait ordinairement les matinées silencieuses. « Ah, des violettes !» dit Marichette. « Il y a donc encore des fleurs ?»« Vous voyez, mademoiselle. » Le premier mouvement de Paulin avait été d'offrir ses violettes à Marichette, mais était-il convenable d'offrir des fleurs qu'il avait portées ? Cette réflexion l'avait arrêté. « Vous aimez les fleurs, mademoiselle » demanda-t-il. Elle eut un sourire mélancolique, comme elle en avait assez souvent. « Je les aimerais si j'en avais, mais ici, il n'y a ni fleurs ni verdure. » Bien que bâti dans une partie du village où il aurait été facile de trouver le terrain d'un jardin, la maison de Belloc n'était entourée que de cours, d'écuries, de remises, de hangars, de magasins et de chantiers. Pas la moindre pelouse, pas un arbuste, des amas de charbon de terre, des tas de planches et de bois de construction, des futailles gerbées les unes sur les autres, des voitures, des échafaudages, des pierres de toutes sortes, des lacs, des ardoises, des tuiles. Au milieu de tout cela, il n'y avait pas de place pour des fleurs, qui d'ailleurs n'avaient jamais manqué au maître. Le lendemain matin, quand Paulin arriva, Belloc était dans le bureau et les conversations de la veille ne pouvaient pas reprendre. Comme tous les jours, il commença par travailler avec Paulin. Puis après, traversant son bureau, où Marichette était déjà à l'ouvrage, il passa dans celui de Victor. Pendant quelques instants, Paulin prépara les papiers qu'il devait emporter. Puis, entrant dans le bureau de Belloc, il vint au cartonnier qui se trouvait derrière Marichette, l'ouvrit avec un certain tapage et parut chercher quelque chose au milieu des papiers qui bruissaient. Tout à coup, Marichette, qui lui tournait le dos, vit tomber sur son papier deux brins de violette. Vivement et sans réfléchir, elle se redressa et regarda derrière elle. La main de Paulin était encore en l'air. Il ne l'abaissa point, mais il la porta à ses lèvres pour demander le silence, et avec un doux sourire, il resta durant quelques secondes les yeux sur Marichette. Vous m'avez dit que vous aimiez les fleurs. Voulez-vous accepter celle-ci ? » C'était là ce que disait son sourire. « Oui, » répondit celui de Marichette. Quand son oncle et Paulin furent sortis, elle monta à sa chambre et, dans un petit verre qu'elle emplit d'eau, elle plaça son bouquet, le premier qu'elle eût jamais reçu. Le lendemain matin, Paulin eut encore affaire au cartonnier et deux brins de violette tombèrent encore sur le papier de Marichette. Ce fut ainsi tous les matins, jusqu'au moment où la neige couvrit la terre. Quand elle eut fondu, ce fut des personnages qu'il apporta, des primes verts, des cires, des épines noires, suivant chaque matin la marche du printemps.